Notre invité ce matin, vous le connaissez sous le nom du pharmacien. Mais c'est pas ça qu'il vient nous présenter, n'est-ce pas, Catherine?
Ben, il s'appelle Olivier Bernard. Oui. Et il vient nous présenter une BD qui s'adresse aux 6 à 12 ans, qui s'appelle Le petit garçon qui pose trop de questions. Bonjour, Olivier.
Un récit autobiographique ou...
Clairement, je pense que c'est même annoncé à la fin du livre.
Ben, un peu dans la mesure où c'est sûr que j'ai puisé un peu dans mon enfance. Ça, c'est un conseil que ma blonde m'a donné. Hein, parce que moi, j'écris pas de la fiction d'habitude. C'était la première fois que j'essayais d'écrire une histoire. D'habitude, je fais de la vulgarisation scientifique.
On doit dire que ta blonde, c'est India Desjardins.
C'est India Desjardins. Elle connaît une chose ou deux sur comment écrire des bonnes histoires. Donc, elle m'a dit, pars de ton enfance. Puis après ça, essaie de créer quelque chose d'un peu plus universel à partir de là. C'est ça que j'ai essayé de faire.
C'est long écrire un truc qui s'adresse à des enfants parce que ça peut paraître assez simpliste au départ. Tu sais, on regarde, c'est des petites phrases.
C'est super difficile.
Ah
moi,
oui?
Puis encore une fois, moi, c'est pas quelque chose, je suis pas habitué de faire ça. J'ai été assis là, 2 mois juste sur le bord de la fenêtre à regarder dans le vide, à essayer de comme peaufiner mon histoire dans ma tête. Faire les dessins, ça a été la partie le fun puis facile puis tout ça parce que je l'avais dans ma tête. Mais trouver l'histoire, même si c'est une phrase par page, c'est extrêmement difficile. Ceux qui le font là, souvent, là, chapeau.
Mais pourquoi? Pourquoi tu dis que ça a été si long?
Parce qu'encore une fois, moi, j'écris pas de fiction à la base. Je suis pas quelqu'un qui compose des histoires. Moi, normalement, je me base sur des faits scientifiques, mm-hmm. puis je brode autour de tout ça, puis je fais des blagues. T'sais. Puis pour moi, des blagues, ça me vient facilement. Mais quand tu fais un livre pour les jeunes, comme dans ce cas-ci, c'est pour les jeunes de n'importe quel âge, de 0 à 18, peu importe. Je veux dire, c'est pas juste une question de faire des blagues. Le but, c'est que j'avais vraiment quelque chose que je voulais transmettre avec ça, qui est l'initiation à la pensée critique, expliquer la méthode scientifique. Donc, il fallait que je trouve le moyen de dire comment je peux intégrer ça dans une histoire où ça sera pas trop gros, tu sais, que ça sera pas amené d'une façon vraiment trop grossière. Donc, c'est un peu subtil, mais en même temps pas trop. Hey, c'est dur. J'ai trouvé ça vraiment difficile de faire ça.
Ben justement, le prélude au départ du livre, ce qu'on raconte, c'est que le petit garçon pose souvent des questions, entre autres le mot « pourquoi ».
Ouais.
Moi, j'étais comme ça quand j'étais jeune. Je posais vraiment beaucoup de questions. Mais toi, ce que tu dis, dans le fond, c'est qu'il ne faut pas s'empêcher de poser des questions.
Non, puis c'est ça. En fait, j'ai une citation d'ailleurs à la fin du livre de Carl Sagan qui dit que tous les enfants naissent scientifiques. Dans le sens où un enfant, là, ça se pose un paquet de questions sur le monde et ça tente d'y répondre, ça tente de trouver des réponses, ça veut faire des expériences, ça veut partir sur des aventures, des explorations, arriver à des réponses et sont ouverts à se faire, à découvrir qu'ils ont tort. C'est ça être un scientifique, dans le fond. Essentiellement, c'est ça la méthode scientifique. Malheureusement, on le perd, cette capacité-là, des fois, avec le temps. On nous apprend dans la vie un peu plus... T'sais, qu'est-ce qu'on devrait penser plutôt que comment on devrait penser? On ne nous apprend pas comment réfléchir. On nous dit, la réponse à telle question, c'est ça, puis il passe à autre chose. Donc oui, c'est important d'encourager les enfants à se poser beaucoup de questions, mais pas juste ça aussi, à leur apprendre qu'il y a une façon d'essayer d'y répondre. T'sais, on ne trouve pas des réponses en demandant à nos amis ou encore en se faisant nos propres réponses dans notre tête.
Ça développe un métier. Mathieu, j'imagine que tu étais comme ça aussi, plus jeune.
Un peu, oui.
Je suis comme pas surprise.
Mais oui, puis en même temps, je suis très heureux que mes parents ne se sont jamais contentés de dire « parce que c'est comme ça ».
Ouais.
Tu sais, cette formulation, souvent pour se débarrasser, puis je comprends, là, pour avoir travaillé avec des enfants pour quelques années, tu as envie de le dire souvent, de dire, parce que c'est le même, puis c'est comme ça, puis c'est, arrête, là, tu sais, parce que tu es épuisé, puis tu as autre chose à faire.
C'est normal. Si t'as 100 fois pourquoi, si t'as 100 pourquoi par jour, à un moment donné, t'as pas le choix de trouver une échappatoire à ça pour pas virer fou. Mais une chose qu'on pense pas souvent, en fait, c'est qu'on peut retourner une question vers l'enfant en lui disant, écoute, la réponse, pourquoi est-ce qu'on essaierait pas de la trouver ensemble? Donc, pourquoi est-ce qu'on regarderait pas ensemble une méthode pour essayer de répondre aux questions qu'on se pose dans la vie? Donc là, t'es pas en train de lui fournir une réponse toute faite. Tu lui dis, les questions qu'on se pose, il y a une façon d'essayer d'y répondre. Essayons de le faire ensemble. Puis on va voir qu'est-ce qu'on va découvrir.
Et je parlais de métier, ça a développé ton métier à toi, qui t'es devenu pharmacien, t'es allé vers le milieu des sciences.
Ouais.
Est-ce que t'as l'impression que c'est cette curiosité-là qui a amené ton choix professionnel?
C'est sûr. Ah oui, c'est définitif. Puis moi aussi, j'étais un enfant qui posait plein de questions, qui posait des questions vraiment gênantes à mes profs ou des choses comme ça, tu sais. Une fois, on avait un cours de religion, puis j'étais allé voir le prof, puis j'avais plein de questions sur les dinosaures. Je disais, pourquoi les dinosaures sont nulle part? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis tout ça. Puis, tu sais, je me mettais dans le trouble avec mes questions. Puis, je pense que cette curiosité-là, pour différentes raisons, je l'ai maintenue avec le temps. Puis, ça te dirige souvent dans un domaine où, justement, tu dois te poser plein de questions. Dans mon cas, c'était les sciences.
Olivier me fait beaucoup rire parce que cet été, à la fin de l'été, il est allé à Londres. Il est allé rencontrer son idole.
Ouais.
Et je me suis dit qu'on n'a pas tous les mêmes idoles.
La reine d'Angleterre ou...
Non.
Parle-nous de ton idole.
Moi, là, c'est ça. C'est que mes idoles, c'est des chercheurs. C'est des gens qui font des travaux extraordinaires, mais que presque personne connaît, dans le fond, tu sais. Puis moi, j'ai une de mes idoles que c'est un chercheur dans le domaine des thérapies un peu farfelues, un peu pseudo-scientifiques, les thérapies alternatives, tout ça. Fait que lui, il a une chaire de recherche là-bas. Il fait des publications extraordinaires avec des méthodologies vraiment spéciales. Il invente des gadgets pour tester des choses que personne n'a jamais essayé. Donc, je lui ai écrit à un moment donné en lui disant « Hey, je fais une émission de télé sur, dans ce cas-ci, c'était l'ostéopathie. » Puis je me suis dit « Je sais que vous avez fait un peu de la recherche là-dessus. Est-ce que vous m'accorderiez une entrevue par Skype? » Il m'a dit « Je déteste Skype, mais si jamais tu étais devant moi, je la ferais l'entrevue. » Et là, ma blonde m'a convaincu en me disant comme « Ben, pourquoi tu ne te payes pas un billet d'avion? Puis vas-y, paye-toi un trip. » Donc, je suis allé voir mon idole. Mon idole absolue, et ça a été extraordinaire.
Ça s'est bien passé, la rencontre, oui.
Oui, ben tu sais, c'est un Anglais,
c'est
vraiment.
C'est quoi son nom? Rappelle-moi
il s'appelle Edzard Ernst.
Oui.
Donc, c'est un chercheur, un médecin là-bas, puis tu sais, c'est un Anglais, vraiment un Anglais, là, Anglais. Je sais pas comment décrire ça, là, mais il y a une façon d'être où il a pas l'air très... D'emblée, il a pas l'air super gentil, il a l'air un peu froid, mais là, il t'offre du thé, puis là, t'es comme, oh, wow, puis là, tu te rends compte que c'est juste un gentleman, tu sais.
T'animes les aventures du pharmacien.
Ouais.
Donc, tu vas à l'envers de beaucoup de courants. Tu as parlé de l'ostéopathie. Avant d'entrer en onde, on a parlé de l'hypnose. Tu me disais que c'était pas super chouette de se faire hypnotiser. On devrait pas
l'hypnose
se soumettre
de
à ça.
L'hypnose de scène, en fait. Là. L'hypnose clinique avec un psychologue qui pratique l'hypnose, ça a une pertinence. Mais de l'hypnose de scène, de spectacle, c'est pas quelque chose là, qui est très intéressant, non.
Tu dois te faire rentrer dedans constamment avec tes propos, avec ce que tu affirmes dans l'émission. Il faut que tu sois fait fort pour faire quelque chose comme ça.
Ouais, mais tu vois, ça fait 6 ans que je fais le pharmacien, là, puis chaque critique me fait encore de quoi, tu sais. On se dit, oh, je développe une carapace. Non, moi, la carapace, je ne l'ai pas développée tant que ça. T'sais, quand je me fais critiquer puis quand je me fais envoyer des insultes, ça me dérange encore, ça me fait de la peine, j'aime pas ça. Donc, tu sais. Puis moi, mon but, c'est pas de me chicaner avec le monde. T'sais. Mon but, c'est de faire réagir, mais d'une bonne façon, dans le sens où si je vais à contre-courant, ben, y a des gens que ça va les brasser juste assez pour peut-être remettre en doute certaines de leurs croyances. Puis là, ils vont devenir dans un stade où ils sont intéressés à en entendre plus.
Mais justement, quand tu vas jouer dans les croyances,
ouais.
C'est pas là le plus difficile. Parce qu'on peut. Quand tu. Quelqu'un qui est convaincu, je pense, tu parlais d'ostéopathie puis de naturopathie, etc.
Mm-hmm.
Quelqu'un qui est convaincu que ça lui apporte du bien.
Ouais.
D'entendre quelqu'un qui arrive en disant « Ouais, mais il n'y a aucune preuve à ce que vous avancez.
Ouais. »
Tu viens heurter ses croyances pures et dures. Donc, c'est sûr que l'argument facile, c'est d'insulter la personne qui est devant soi.
Ouais, ben oui, puis d'ailleurs, c'est pas du tout comme ça que je m'y prends. Moi, j'ai jamais dit à personne « Ah, toi, tu crois à telle chose, ce que tu crois, c'est n'importe quoi. » Je veux dire, je vois pas pourquoi je dirais ça à quelqu'un. Quelqu'un qui dit « J'ai fait tel type de traitement et ça m'a fait du bien », moi, la seule réponse que j'ai, c'est « Tant mieux ». La grosse différence que beaucoup de gens saisissent pas, c'est moi, si on me demande mon avis sur un sujet, genre « Hey, tel type de traitement, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de pertinent?
Ouais. »
Mais là, j'ai pas le choix, moi, comme pharmacien, comme scientifique, de dire « Ben, voici ce qu'on sait scientifiquement, voici ce que les données probantes nous disent. » Et là, je dois dire, si ça marche pas, je dois le dire. C'est très différent de, comme exemple, il y a des gens qui viennent à la pharmacie puis qui me disent « Hey, moi, je prends tel produit naturel, ça fonctionne super bien, ça me fait tellement de bien. Moi, je le sais que ça marche pas dans ma tête, mais je le dis pas à personne. Je dis « Hey, je suis vraiment content pour vous. » C'est très différent si une personne vient me voir et me dit « Ce produit-là, est-ce qu'il fonctionne et est-ce que je devrais le prendre? » Là, je suis tenu de lui dire la vérité.
Qu'est-ce qui t'insulte? Quand tu dis « ça vient me chercher », est-ce que c'est des gens qui... Comment dire? C'est pas le fait que tu n'assumes pas tes propos. C'est le fait que, dans le fond, il y a des gens qui vont aller t'attaquer personnellement, essayer d'attaquer ta crédibilité. J'essaie de comprendre ça.
Écoute, c'est violent. Là. Le sujet de la santé, là, c'est rendu aussi glissant que la politique. Donc, exemple, à un moment donné, j'ai publié une bande dessinée sur le gluten.
Oui.
J'ai eu des menaces de me faire casser les deux jambes avec un bat de baseball. Oui, exactement.
Parce que tu disais que le gluten, l'allergie au gluten ou l'intolérance au gluten...
Ben que l'intolérance au gluten, c'est vastement surestimé, là, je veux dire. À un moment donné, on avait l'impression...
C'est le fourre-tout,
Ben, il y a à peu près 5 ans, là, tout le monde était rendu intolérant au gluten. Là, c'est en train de se corriger, là, la mode est moins là. Mais moi, j'avais juste dit qu'à un moment donné, garde, il y a 1% de la population qui peut pas en consommer. Peut-être un autre 5% qui a une certaine forme d'intolérance, c'est tout, là. Je veux dire, il y a pas comme 50% de la population qui a ça. Donc, des menaces physiques, des insultes vraiment malhonnête. Je me suis déjà fait envoyer des photos de ma maison avec rien. Genre juste une photo de ma maison. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire comme je sais où t'habites.
Ça, c'est grave, là, quand même.
Ouais, exact. Donc, tu sais, à un moment donné, ça devient fatigant de vouloir faire de la bonne vulgarisation, de vouloir aider les gens, de vouloir changer les perceptions. Et de tout le temps avoir cette espèce de genre de commentaires-là, ça épuise à un moment donné.
Est-ce que tu sens qu'il y a un courant? Parce que je me souviens, quand Martin Carly faisait partie de notre émission, oui. Quand on parlait justement de choses en lien, que ce soit les vaccins, que ce soit le traitement du cancer, etc., oui. C'est moi qui recevais les courriels. Puis les courriels d'insultes, c'était oui. À la tonne. Oui, à chaque exact. Fois qu'on abordait ces sujets-là.
Exactement.
Est-ce que tu sens qu'il y a un courant qui est plus présent, c'est juste que les gens ont plus de facilité à s'exprimer parce que les moyens de communication sont plus à leur disposition.
Ouais, c'est la deuxième chose parce que tu vois, je vais prendre un exemple bien simple, les vaccins, OK?
Ouais.
Tu sais, les vaccins, ça fait plus que 100 ans que ça existe, là, et l'opposition à la vaccination, ça a existé dès l'invention des vaccins. Tu sais, à une époque où les gens vivaient dans des fermes, etc., il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de télécommunication, il n'y avait rien.
Ouais.
Il y avait déjà une opposition à l'époque. Les gens n'aimaient pas ça, l'idée de se faire inoculer une bactérie ou un virus ou un microbe. T'sais. Donc, elle a toujours été là. La différence aujourd'hui, c'est que les gens ont les plateformes pour le dire. Et malheureusement, on accorde beaucoup trop d'attention et d'importance à ces groupuscules-là qui forment environ, peut-être maximum, même pas 1% de la population. Et eux, on leur accorde de l'attention, on les invite dans les médias, on leur répond sur Internet. On ne devrait pas leur accorder d'attention, ces gens-là. C'est une minorité de personnes, alors que la vaste majorité des gens... Ils se posent des questions puis sont intéressés d'entendre la réponse.
Tu sais, je me souviens, là, il y a une année, la première année des aventures du pharmacien, tu avais parlé des jus.
Ouais.
Je sais que ça avait été assez
ouais.
Polarisé. Là.
Ouais.
Mais chez nous, là, à Noël, on a failli avoir une chicane monstrueuse dans la famille parce qu'il y en a la moitié qui essaie d'expliquer que c'était juste du sucre puis l'autre moitié qui disait ouais. « Ben non, c'est des fruits.
Ouais.
C'est bon pour la santé. » Fait que, ouais. Tu sais, il y a quelque chose d'effectivement très polarisant autour de certains ouais. sujets.
C'est polarisant. Puis
j'ai vu la violence sortir de certains êtres hein? humains que j'aime là, profondément.
Avoue que c'est quand même fascinant
oui.
qu'ils puissent avoir une telle violence pour du jus. Tu sais, puis c'est là qu'on voit...
Qui est si bon pour la santé, qui guérit tout.
Ben ouais, c'est ça. Ben ouais, exact. Si tu crois ça, si tu penses qu'un jus, ça va guérir le cancer, c'est sûr que tu as un attachement très, très sentimental, tu sais. En même temps, c'est un peu absurde. Puis le gluten, c'est la même chose. Le gluten, je veux dire, il y a ça dans le pain. Pourquoi est-ce qu'on capote autant sur le pain, sur le jus? Et c'est la preuve. Puis l'alimentation, c'est probablement le domaine où c'est le plus ouais. comme ça. Les diètes populaires à la mode. Cette année, c'est la diète cétogène. Il y a eu la diète paléo. Tu sais, les gens qui s'accrochent dans ces choses-là, là, ils ont un attachement tellement personnel et comme vraiment viscéral que ça devient que ça fait partie de leur identité. Fait que quand tu leur dis que c'est pas vrai, ils réagissent vraiment
et boy, fortement. Et moi, je suis capable de me faire hypnotiser. Puis en plus, je crois à la diète cétogène. Cétogène, fait que j'ai certains problèmes.
Mais ça me fait penser, on va se laisser là-dessus, parce qu'il y a quelques semaines, j'avais reçu un psychiatre qui avait fait un livre sur les données scientifiques sur le cannabis.
Ouais.
Et lui disait, écoute, les menaces, comme toi, là, il en recevait en quantité, là, mm-hmm. il disait, quand on va jouer dans des croyances... C'est pratiquement... Il dit, moi, je présente des faits. Là. Je ne veux pas convaincre personne, mais j'y vais avec des faits. Donc, si vous êtes convaincu que pour vous, là, tout ce que je vous dis, c'est de la merde, je ne vous convaincrai pas du contraire.
Exact.
Mais il dit, il faut quand même présenter le contraire. Il faut être capable de se faire rentrer dedans, parce que sinon... Ça laisse toute la place à ceux qui veulent vendre finalement n'importe quoi. Il
faut avoir la couenne très, très dure pour faire de la sûr. Vulgarisation puis de la sensibilisation, mais je pense que ça n'en prend qu'ils le font quand même.
Merci beaucoup.
Et je rappelle le livre, oui. Ça s'appelle « Le petit garçon qui posait trop de questions » et c'est signé Olivier Bernard, alias Le Pharmacien.
Merci beaucoup.
Salut bien, au revoir.